RFI, les 23h à Damas, 21h à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, les 10 millions d'habitants du comté de Los Angeles s'appelaient à se tenir prêts en cas d'évacuation 6 jours après le début des incendies qui ont déjà fait 24 morts. Le vent se renforce. La France peut-elle faire pression sur l'Iran pour la libération de ses ressortissants? Question après qu'un Français détenu dans le pays depuis 2 ans est sorti de l'anonymat. Olivier Grondeau appelle Paris à l'aide. Au sommaire, également la polémique en Pologne. Benjamin Netanyahou ne sera pas arrêté, c'est ce qu'assure les autorités, alors que le Premier ministre israélien visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pourrait participer aux commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Et puis nous irons sous la nef du musée d'Orsay à la fin de ce journal à la découverte d'un orchestre bien particulier composé de détenus, réfugiés et personnes en situation de précarité. Los Angeles en état d'alerte. Le vent se renforce pendant que les pompiers tentent toujours de lutter contre les flammes qui ont fait au moins 24 morts. Les autorités appellent désormais l'ensemble de la population du comté de Los Angeles à se tenir prêt en cas d'évacuation. Soit 10 millions de personnes. 100 000 sont déjà partis, d'autres hésitent, comme Madeleine Pron. La scénariste franco-américaine habite dans le quartier de Silver Lake.
Soudainement, tous mes amis qui sont restés le premier jour sont partis. Ils sont allés à Palm Springs ou ils sont allés à San Diego et je me suis dit, mince, pourquoi on est toujours là? Et donc il a fallu que j'appelle justement mes amis qui sont restés, leur demander si est-ce qu'on est, on est fou, est-ce qu'il faut qu'on parte tout de suite. Quand on voit d'autres gens qui partent, ça nous fait peur qu'on n'est pas en train de prendre la bonne décision. Et quand on regardait la carte et surtout cette application qui nous dit si on est en danger ou pas, on voit qu'on continue d'être en sécurité. On n'est pas près des feux, on n'est pas près non plus des collines. Donc on n'imagine pas vraiment le feu venir jusqu'à nous. Mais c'est une discussion qu'on a tous les heures, quoi. On se demande, on regarde nos téléphones, on regarde les infos. Et d'une minute à l'autre, on peut changer notre avis, on peut partir.
Un témoignage recueilli au micro de l'envoyé spécial de RFI à Los Angeles, Guillaume Naudin. L'Ukraine n'est pas en position de force avant d'éventuelles négociations de paix. Déclaration aujourd'hui de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui participera le 3 février à une réunion avec les dirigeants des pays membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Une rencontre exceptionnelle consacrée à la défense européenne 2 semaines après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une grosse prise de risque et beaucoup de stress, selon sa mère. Olivier Grondeau, français, détenu en Iran depuis 2 ans, sort du silence, condamné pour complot contre la République islamique. Comme 2 autres Français, il veut se faire entendre dans un message audio. Il se dit épuisé et demande sa libération. Alors la France peut-elle vraiment agir? En a-t-elle les moyens? Élément de réponse avec Muriel Paradon.
Ils étaient jusqu'à 7 Français détenus en Iran. 4 d'entre eux ont été libérés en 2023 et 2024 après des années d'emprisonnement éprouvant. Benjamin Brière, Bernard Felan, Fariba Adelkha et Louis Arnaud. Tous ont été relâchés officiellement pour des raisons humanitaires. Il reste désormais 3 Français encore détenus en Iran. Paris, qui les considère comme des otages d'État, est en contact avec les autorités iraniennes pour les faire libérer, mais ne négocie pas officiellement. Les relations avec Téhéran sont difficiles. La France est engagée dans le dossier du nucléaire iranien et pose désormais comme préalable à la levée des sanctions contre l'Iran la libération de ses ressortissants. D'autres pays européens sont aussi confrontés à ce genre de détention. La Belgique a négocié en 2023 un échange entre un travailleur humanitaire et un détenu iranien accusé d'avoir préparé un attentat en France quelques années plus tôt. La semaine dernière, c'est l'Italie qui relâchait un ressortissant iranien 4 jours après la libération d'une journaliste italienne détenue durant 3 semaines à Téhéran.
Muriel Paradon. Plus d'un mois maintenant après la chute de Bachar el-Assad, 6 États membres de l'Union européenne, dont la France, appellent à la levée temporaire des sanctions contre la Syrie dans différents domaines, parmi lesquels les transports, l'énergie et les banques. Pour en discuter, les ministres européens des Affaires étrangères se retrouveront le 27 janvier à Bruxelles. Toujours au Proche-Orient, un espoir de changement se lève pour le Liban. La déclaration ce soir d'Emmanuel Macron après son entretien avec Nawaf Salam, le président de la Cour internationale de justice, nommé aujourd'hui Premier ministre. Joseph Aoun, le nouveau président libanais, s'est quant à lui entretenu ce jeudi avec le chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. Au menu des discussions, la situation dans le sud Liban et le retrait des troupes israéliennes de la région prévue par l'accord de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu à Gaza cette semaine, c'est possible d'ailleurs, d'après le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous sommes proches d'un accord, a déclaré Jake Sullivan ce soir, alors qu'une série de frappes israéliennes ont fait plus de 50 morts aujourd'hui dans la ville de Gaza, selon les secouristes locaux. Et à deux semaines des commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz, la possible présence du Premier ministre israélien fait polémique, alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Benjamin Netanyahou bénéficiera d'un accès libre et sûr, ont prévenu les autorités polonaises. La correspondance à Varsovie pour RFI d'Adrien Sarla.
J'ai honte d'un gouvernement qui protège les criminels de guerre. Il n'a pas fallu longtemps à l'artiste engagé Bartłomiej Kiełbowicz pour écrire sa réaction aux propos du Premier ministre Donald Tusk. L'inscription en lettres noires au pied de l'emblématique Palais de la Culture et de la Science à Varsovie dénonce la supposée complaisance de la Pologne vis-à-vis de Benjamin Netanyahou.
J'ai été surpris et en colère car je n'étais pas d'accord avec cette décision. Selon moi, la place des criminels de guerre est en prison. Alors j'ai réagi très vite, j'ai découpé un pochoir et deux heures plus tard, j'étais déjà en train de taguer cette phrase sur les murs du centre-ville de Varsovie.
Une réaction à chaud, une phrase accusatrice écrite en anglais et une photo repartagée par près de 300 000 personnes sur Instagram. Tout le week-end, des manifestations dénonçant la position des autorités ont essaimé dans toutes les grandes villes du pays, transformant ce fameux tag en un slogan.
Les photos que j'ai postées sur Internet sont devenues si virales que je suis persuadé que le gouvernement en a entendu parler. Je pense que nos dirigeants, qui communiquent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, devraient aussi prendre en compte ce qui s'y dit et écouter la voix des citoyens. Et moi, en tout cas, j'ai voulu montrer que j'étais opposé à la venue de Netanyahou.
Reste à savoir si le Premier ministre israélien saisira l'occasion d'assister aux commémorations le 27 janvier prochain. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Ce fut un plaisir. C'est avec ces mots que le double champion du monde de boxe chez les poids lourds, Tyson Fury, a annoncé aujourd'hui prendre sa retraite à l'âge de 36 ans. Le géant de 2,6 m se retire avec un bilan exceptionnel. 34 victoires, dont 24 par KO, un nul et deux défaites. On termine ce journal en musique avec En musique pour plus d'humanité, une initiative lancée il y a 6 ans par un orchestre de jeunes en France. Son objectif, allier art et engagement social. Pour ça, l'orchestre Ostinato travaille depuis 4 mois sur un nouveau projet réunissant des détenus, des réfugiés, des personnes en situation de précarité. Un melting pot que les chanceux découvrent ce soir dans la nef du musée d'Orsay à Paris. Avant ça, Carmen Lunsman a assisté aux répétitions.
Vêtue de chapeaux, de jupes en tulle et autres accessoires prêtés par l'Opéra de Paris, une troupe hétéroclite découvre la symphonie fantastique en dansant.
J'ai sauté au Secours Populaire pour des aides alimentaires.
Et comme par magie, il y a eu ce projet que j'ai pas pu refuser.
Sofiane, 31 ans, venant d'Algérie, incarne le rôle de Berlioz, le compositeur dans cette chorégraphie créée avec un danseur à l'Opéra de Paris, Maxime Thomas.
Il y a des gens d'Afghanistan, d'Iran, du Bangladesh. Donc à travers le geste, le mouvement, la danse, c'est une porte d'entrée vers une expression de soi, développer aussi leur confiance en eux et peut-être une force intérieure qui leur sera utile dans la vie de tous les jours.
L'intégration, bien sûr, ça n'a pas été facile au début.
Confirme Thierno, 18 ans, qui a dû quitter la Guinée-Conakry.
Parce que l'école là où j'étais a été détruite. Mais quand je danse, je sens tout mon amour. J'ai ressenti des belles choses, quoi.
Mission accomplie pour Emmanuelle Dutu, directrice de l'orchestre Ostinato, qui est à l'origine du projet, nourri aussi par des témoignages des réfugiés.
Quand ils vont déclamer des textes de leur parcours, c'est là qu'on réalise qu'ils ont vraiment des choses lourdes derrière eux. On a un danseur mauritanien qui a failli mourir plusieurs fois dans des traversées clandestines. C'est l'émotion qui va ressurgir.
Le corps dit beaucoup de choses, enfin je dis plus que la parole.
Car Carmen Lunzmann à l'occasion du concert ce soir de l'orchestre Ostinato sous la nef du musée d'Orsay à Paris. Il est 21h10 à Paris, 20h10 en temps universel. Tout de suite, vous retrouvez Couleur Tropicale avec Claudie Sierre et son invité. Ce soir, c'est le Guadeloupéen Thierry Cham.